France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal. Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les troupes américaines ont débuté ce matin leur retrait des secteurs proches de la frontière turque dans le nord de la Syrie, ouvrant ainsi la voie à l'offensive militaire promise par Ankara contre les forces kurdes, jusque-là pourtant alliées de Washington dans la lutte anti-djihadiste.
Les discussions entre Européens et Britanniques sur le Brexit vont reprendre aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, l'UE attend toujours de savoir si Boris Johnson acceptera ou non de modifier ses positions sur les points problématiques de son plan de sortie. Hier, à maintes reprises, le Premier ministre a de nouveau exclu un nouveau report de la date du Brexit prévu le 31 octobre.
À partir d'aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Paris va juger 6 personnalités mises en cause pour abus de biens sociaux et recel dans le volet financier de l'enquête sur l'attentat de Karachi qui avait coûté la vie à 11 Français. C'était au Pakistan en 2002.
La tuerie à la préfecture de police est révélatrice d'un dysfonctionnement d'État, mais pas d'un scandale d'État. Déclaration ce matin du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lequel a rejeté une nouvelle fois les appels à sa démission. Enfin, au lendemain de la mobilisation contre le projet de loi bioéthique prévoyant l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Un vieux monsieur, mais plein d'avenir. Le CNRS fête ce mois-ci ses 80 ans. C'est aussi le lancement de la fête de la science 2019 et le coup d'envoi de la semaine des Nobel. Vous en parlez, Thomas Cluzel. Avec nous, deux invités, l'historien des sciences Denis Gutleben et le directeur du CNRS, Antoine Petit, viendront nous parler des défis actuels de la science, de l'état de la recherche en France et de la question de la défiance qui se pose à eux et comment ils peuvent y répondre.
Merci et à tout à l'heure. Depuis que le président américain avait lâché d'un tweet, c'était en décembre dernier, mission accomplie en Syrie. Nombreux étaient ceux à redouter ce scénario du pire susceptible, si toutefois ce n'est déjà le cas, de laisser définitivement le pays en proie au chaos. Après que les forces américaines ont commencé ce matin à se retirer de zones aux abords de la frontière turque, Ankara s'est dit aussitôt déterminé à, je cite, « nettoyer le nord de la Syrie des terroristes », en l'occurrence la milice kurde des unités de protection du peuple, les YPG, qui avaient avec l'appui pourtant des États-Unis et d'autres pays occidentaux, avait été le fer de lance dans la lutte contre le groupe État islamique. Et voilà pourquoi non seulement cette volte-face de Washington est perçue aujourd'hui comme un coup de poignard dans le dos par les Kurdes, mais ce changement de cap risque qui plus est de bousculer de façon radicale la configuration militaire et politique de toute la région. En clair, beaucoup craignent que le terrain laissé libre par les Américains ne soit désormais récupéré par la Turquie, mais aussi la Russie et le régime de Bachar el-Assad. Quoi qu'il en soit, voilà plusieurs mois qu'Ankara menaçait donc de lancer une opération d'envergure contre les positions des YPG situées à l'est du fleuve Euphrate, afin de créer une zone tampon séparant les forces kurdes et la frontière turque. Et les États-Unis viennent d'ouvrir donc la voie à cette offensive qui pourrait rapidement virer à la boucherie. Les précisions de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
Du côté turc de la frontière, l'armée renforce ses effectifs. Du côté syrien, des unités américaines ont quitté ce matin deux postes d'observation frontaliers, alors que les forces kurdes fortifient leur position et que des manifestations ont eu lieu au cri de « Abba Erdogan, Abba l'occupation ». Pour le président turc, la création de cette zone de sécurité sur une profondeur de 30 km vise à protéger son pays des milices kurdes qu'il considère comme séparatistes et terroristes et à y réinstaller 2 millions de réfugiés syriens en y construisant même de nouvelles villes. Cette zone tampon était prévue de longue date, selon Ankara. Washington a même donné son feu vert de principe en août, mais sans la concrétiser, faute d'accord avec les Kurdes syriens. Cette fois, la Maison-Blanche cède à ce que les forces kurdes considèrent, elles, comme une invasion turque pour prendre le contrôle du Kurdistan syrien, comme elles l'ont déjà fait en 2018 avec la région d'Afrin, une zone de sécurité déguisée en opération humanitaire pour imposer aussi un changement démographique dans le nord-est syrien, en noyant la population kurde, alors même que ce Kurdistan syrien s'est autonomisé avec la guerre civile en Syrie et la lutte contre Daesh au grand dam de la Turquie. Les autorités autonomes kurdes demandent d'ailleurs maintenant des pressions internationales pour empêcher l'agression turque. Elles mettent en garde contre le risque de retour de Daesh et de perte de contrôle des camps de déplacés qui abritent des milliers de ses sympathisants.
Après une semaine de contestation contre tout à la fois le chômage chronique, la médiocrité des services publics et la corruption généralisée, la crise politique en Irak se double désormais d'une répression sanguinaire à l'encontre de manifestants dont rien aujourd'hui ne semble pouvoir entamer la détermination, pas même la déjà très longue liste de leurs martyrs. On parle désormais de plus de 100 morts et 6000 blessés. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a de nouveau exclu hier un report du Brexit prévu le 31 octobre, une obstination qui pourrait toutefois se heurter rapidement à une loi récemment votée par le Parlement et qui, pour éviter un no deal, l'obligera à repousser la date du divorce s'il ne trouve pas d'accord au sommet européen des 17 et 18 octobre prochains. Les partis britanniques doivent d'ailleurs se rencontrer aujourd'hui pour tenter de s'unir autour d'une stratégie visant à empêcher Boris Johnson de défier la loi. Une journée qui, quoi qu'il en soit, Pierre Vérot, ouvrira une semaine a priori déterminante quant à l'issue du divorce.
Une de plus, en effet, mais là nous entrons vraiment dans le dur. À la fin de la semaine, c'est le souhait d'Emmanuel Macron, notamment avec qui Boris Johnson s'est entretenu ce dimanche. Bruxelles et Londres devront avoir suffisamment avancé pour dire si un accord de sortie le 31 octobre est envisageable et quel accord, faute de quoi Londres devrait normalement se résoudre à demander un nouveau report à l'Union européenne, même si Boris Johnson continue à affirmer le contraire. Le temps semble donc soudain s'accélérer. David Frost, l'émissaire du 10 Downing Street à Bruxelles, a repris ce lundi les discussions avec les équipes de Michel Barnier. Dans le même temps, Steve Barclay, le ministre du Brexit, fait lui la tournée des capitales européennes pour convaincre de la volonté de Londres de trouver un terrain d'entente avec l'Union. Et les négociations s'intensifient également aux communes afin de trouver une majorité de députés à même d'appuyer un éventuel plan de sortie. Londres appelle l'Union à faire preuve de créativité, de flexibilité, d'esprit de compromis. Promis, il en faudra beaucoup pour trouver en quelques jours une solution au point qui bloque depuis de longs mois. Comment éviter le retour d'une frontière entre les deux Irlandes? Les propositions britanniques sur les contrôles douaniers n'ont guère convaincu. L'autre point d'achoppement, le droit de veto donné tous les 4 ans au Parlement d'Ulster, pourrait lui être amendé par la Grande-Bretagne. Nécessaire, mais sans doute insuffisant. La question reste en outre entière sur la volonté britannique, volonté réelle de trouver un accord ou manœuvre de Boris Johnson pour faire peser la responsabilité d'un éventuel échec sur la seule Union européenne.
Dans une Europe où les populismes ont partout le vent en poupe, dans l'opposition, voire jusqu'au sommet de l'État, le Portugal fait plus que jamais figure d'exception. À l'heure du dégagisme, le Premier ministre sortant, le socialiste António Costa, a été largement reconduit hier à l'occasion des élections législatives. En revanche, et quand bien même il devance largement ses principaux adversaires du Parti social-démocrate de centre-droit, il ne devrait pas disposer de la majorité absolue, ce qui l'obligera à chercher l'appui d'autres formations. Au Kosovo, là-bas, c'est l'opposition qui a remporté les législatives organisées hier, poussant vers la sortie les anciens chefs de la guérilla qu'il dirigeait depuis 2 décennies. Après le dépouillement de 3/4 des votes, gauche et centre-droit auraient obtenu respectivement 25,9 et 25,33% des voix, ou quand les électeurs ont choisi de sonner l'heure du changement. Il faut dire qu'à l'enthousiasme de la proclamation d'indépendance a succédé depuis plusieurs années déjà l'apathie d'un quotidien difficile, une colère exacerbée évidemment par la corruption, le clientélisme et le népotisme. Reste que si l'opposition a certes réussi à faire chuter les commandants, privé de majorité absolue, le parti de gauche nationaliste albanais devra trouver un accord de coalition, probablement avec le plus ancien parti kosovar de centre-droit. Et il y a fort à parier qu'il leur faudra des jours, sinon des semaines, pour négocier une coalition. Les précisions de notre correspondant Laurent Rouy.
Jusque tard dans la nuit, les supporters du parti Vete Vendosje, autodétermination en albanais, ont fêté bruyamment leur victoire. Les électeurs ont exprimé leur lassitude des anciens commandants de la guérilla de Luceka, qui au pouvoir pendant 20 ans n'avaient favorisé que la corruption et le clientélisme. Avec un peu plus de 25% des votes, Vete Vendosje, un parti de gauche nationaliste, proposera Albin Kurti, un ancien leader étudiant au poste de Premier ministre. Vete Vendosje devrait facilement former une coalition avec la deuxième force issue de ces élections, la Ligue démocratique du Kosovo. Ce parti historique de centre-droit obtient 25% des votes. Sa tête de liste, l'avocate Vjosa Osmani, première femme à faire campagne dans un Kosovo resté très patriarcal, pourrait devenir une figure centrale du futur gouvernement. Les deux formations sont idéologiquement éloignées, mais unies dans leur volonté de tourner la page. Et le gouvernement pourrait être formé rapidement. Reste que la communauté internationale attend du futur pouvoir qu'il lève les sanctions économiques que la précédente équipe avait mises en place contre la Serbie. Mais aussi qu'il reprenne les négociations dites du statut final, interrompues justement à cause de ces sanctions. Or, Albin Kurti est connu pour ses positions franchement anti-serbes. Il y a donc fort à parier que les négociations ne seront pas simples à remettre sur les rails.
Même si les résultats préliminaires ne seront connus que mercredi en Tunisie, les premiers sondages à l'issue des élections législatives organisées hier laissent d'ores et déjà se dessiner une nouvelle assemblée, a priori fragmentée entre des partis hétéroclites quand ils ne sont pas rivaux, autrement dit peu enclins à négocier. Pour l'heure, le parti d'inspiration islamiste Ennahda et celui de l'homme d'affaires Nabil Karoui, actuellement en détention, revendiquent chacun la victoire. Et puis dimanche prochain, la jeune démocratie sera de nouveau appelée aux urnes, cette fois-ci pour le second tour de la présidentielle, avec d'un côté toujours Nabil Karoui, soupçonné de blanchiment et fraude fiscale. Et puis de l'autre, un professeur de droit sans structure partisane, Kais Sayed. C'est le premier procès dans la tentaculaire affaire Karachi et il doit s'ouvrir cet après-midi. 6 prévenus au total, 6 hommes, 3 politiques dont un ancien ministre, un industriel et 2 intermédiaires dont l'un aussi renommé que sulfureux vont être jugés au tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de rétrocommission en marge de la vente d'équipements à l'Arabie Saoudite et au Pakistan, le tout sur fond de campagne présidentielle malheureuse d'Edouard Balladur. Et c'est ainsi que durant 4 semaines vont donc flotter tout à la fois l'ombre de cette campagne de 95, mais aussi celle de l'attentat de Karachi qui en 2002 a causé la mort de 11 employés français de la direction de la construction navale, une attaque à la voiture piégée qui pourrait avoir été perpétrée en représailles à l'arrêt de ces rétrocommissions illégales. Alors parmi les protagonistes de cette affaire, 2 hommes étonnamment ne comparaîtront pas à la barre cet après-midi. Il s'agit d'Edouard Balladur lui-même et de son ancien ministre de la Défense François Léotard. Pourquoi ? Parce que tous deux ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République, la seule juridiction habilitée à juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Un décalage lié en somme au principe de la séparation des pouvoirs. Reste désormais à savoir si ce double procès en quelque sorte, et même triple si l'on tient compte de l'enquête autour de l'attentat, ne risque pas de nuire à la manifestation de la vérité. Les précisions de Florence Turme.
Oui, car il faut rappeler que l'enquête sur le volet terroriste est toujours en cours. Cette enquête qui a pourtant permis d'ouvrir ce volet financier à travers la découverte du rapport Nautilus, commandé par la direction de la construction navale et dissimulé dans un premier temps à la justice. Ce rapport évoque un lien possible entre l'attentat de Karachi et l'arrêt des commissions en matière de contrat d'armement, décidé 6 ans plus tôt par Jacques Chirac à son arrivée au pouvoir. Hypothèse toujours pas confirmée à ce stade de l'instruction. Mais le procès de l'affaire des rétrocommissions sera lui-même coupé en deux, puisque Édouard Balladur et François Léotard seront jugés ultérieurement devant la Cour de justice de la République, ce que regrette l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, interrogé par nos confrères de France Info.
Je regrette simplement qu'on saucissonne, que les ministres ne sont pas jugés en même temps. Il y a un principe de séparation des pouvoirs qui veut qu'un juge puisse pas aller embêter un ministre quand il est en train de travailler. Ça serait dangereux, je reconnais tout à fait. Mais quand c'est des gens qui sont plus en poste depuis des années, Monsieur Balladur, Monsieur Léotard, enfin ça n'a aucun sens.
Ils devraient être jugés aujourd'hui, selon vous.
Mais bien sûr, même procès que leurs adjoints, parce que il peut y avoir des grandes contrariétés en plus dans les décisions. Et puis il n'y a pas la même dynamique. Enfin, on va avoir des gens qui vont dire, mais moi je suis sous fifre. Ah oui, ben on peut pas juger les autres, ils se renvoient la balle. Ça n'a aucun sens ce système.
Un dossier d'autant plus complexe à appréhender compte tenu de ses éléments et du facteur temps. Nicolas Bazire, Renaud Donodieu de Vabre et Thierry Gobert, les 3 prévenus qui appartiennent au cercle ministériel ont toujours nié les faits qui leur sont reprochés. Quant à Ziad Takieddine, le sulfureux homme d'affaires franco-libanais dont le nom revient dans de nombreuses affaires, il a multiplié les déclarations contradictoires avant d'affirmer qu'il avait joué les porteurs de valises à la demande de l'entourage d'Edouard Balladur dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 95.
Quel cap pour la politique migratoire de la France ? Comme voulu par Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale donnera cet après-midi le coup d'envoi d'un débat sans vote sur ce thème hautement sensible et qui divise jusque dans les rangs de la majorité. 6 axes de travail vont être présentés dans l'hémicycle, dont une réflexion sur les prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile. Quand la droite voit avec scepticisme les intentions présidentielles disant attendre des actes, la gauche dénonce, elle, une forme d'instrumentalisation électoraliste du thème de l'immigration. Comment un informaticien habilité secret défense, spécialiste du recueil de renseignements sur la mouvance djihadiste, a-t-il pu lui-même basculer sans que jamais sa hiérarchie ne s'en inquiète? 4 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, où 4 fonctionnaires ont été tués, Christophe Castaner reconnaît qu'il y a eu des manquements. Le ministre de l'Intérieur évoque des failles, un dysfonctionnement d'État, mais pas de scandale d'État, et refuse ainsi toujours de démissionner, comme le souhaite une partie de l'opposition. Vianney Smiarowski, bonjour.
Bonjour.
Alors, Christophe Castaner sera auditionné demain à huis clos par la délégation parlementaire au renseignement sur ces fameux dysfonctionnements. Et en attendant, eh bien, on se demande donc toujours comment l'auteur de cette attaque, un agent de la préfecture devenu terroriste au cœur de l'antiterrorisme, a pu passer au travers des mailles du filet.
Eh bien, il n'y a pas eu d'alerte au bon niveau, au bon moment, admet Christophe Castaner, qui souhaite désormais que ces alertes fassent l'objet d'un signalement automatique. L'auteur de l'attaque à la préfecture de police avait par exemple justifié les attentats de Charlie Hebdo en 2015 au sein de son service, mais aucun signalement formel n'avait été établi. Il n'y avait aucune trace de radicalisation dans son dossier administratif, d'après le rapport de la direction du renseignement remis au ministre de l'Intérieur. Pourtant, des collègues de l'assaillant avaient fait part de leurs inquiétudes à leur hiérarchie, mais verbalement. Et ce qui pose question, eh bien, c'est cette habilitation secret défense dont il bénéficiait. Les enquêteurs s'interrogent sur la nature des informations auxquelles il aurait pu avoir accès. L'un des problèmes pour le syndicat des cadres de la sécurité intérieure, c'est le suivi au long terme. Avant d'avoir cette habilitation, il y a une longue enquête, mais elle n'est renouvelée que tous les 7 ans. Il faut donc améliorer le suivi lors des carrières, améliorer le criblage aussi, que les signalements soient consignés par écrit. Et puis toujours, selon le syndicat des cadres, il faut lever le tabou du signalement entre collègues, revoir aussi l'organisation des services de renseignement en France. Il y en a 3, ils sont trop cloisonnés. L'organisation doit être plus simple, disent les policiers. Et puis il y a aussi parfois un manque de moyens qui oblige les agents du renseignement à prioriser les dossiers. Mais lorsqu'il s'agit de personnes isolées et qui ne montrent pas trop de signes de radicalisation, eh bien c'est quasiment insaisissable. Il n'y a pas de solution miracle, ça c'est ce que pense l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. D'ici la fin de l'année, en tout cas, une nouvelle loi sur le renseignement doit être présentée. L'Élysée rappelle que le suivi renforcé ne concernera pas que les policiers, mais tous les agents des services publics et des collectivités.
Merci Vianney Smiarowski. La médecine ouvre aujourd'hui une saison Nobel exceptionnelle, avec notamment 2 prix de littérature pour tourner la page du scandale d'agression sexuelle qui a mis l'Académie suédoise en lambeaux, sans oublier bien sûr le prestigieux prix de la paix que ses soutiens voudraient voir récompenser Greta Thunberg. Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce matin donc était remis le prix Nobel de médecine et il a été attribué, Benoît, à 3 professeurs, 2 américains et 1 britannique pour leurs travaux sur l'oxygénation des cellules.
Précisément les américains William Kaelin et Greg Semenza et puis le britannique Peter Radcliffe. Ils ont été récompensés effectivement pour leurs travaux permettant de mieux comprendre comment les cellules du corps humain peuvent d'abord détecter puis s'adapter à des niveaux d'oxygène variables. Alors sans forcément entrer dans tous les détails du métabolisme intracellulaire, les applications de ces recherches vont pouvoir permettre de lutter notamment contre le cancer et l'anémie, peut-être même de mieux comprendre et de mieux prévenir les risques d'infarctus. La clé pour comprendre, c'est notamment la protéine HIF1. Retenez bien ce nom. Elle est au centre des travaux de Kaelin, Semenza et Radcliffe. C'est une protéine qui permet de réguler les apports en oxygène. Et c'est donc une protéine dont on peut se servir comme d'un régulateur. Écoutez les explications de Greg Semenza.
Les études sur les animaux suggèrent que si nous augmentons, en la stimulant, la production de HIF1, nous pouvons améliorer le flux sanguin, ce qui serait bénéfique pour les maladies cardiovasculaires. Dans le cas des cancers, c'est l'inverse. La tumeur est hypoxique, car de nombreuses cellules consomment de l'oxygène. Nous cherchons donc à bloquer la fabrication de HIF1. Nous pensons qu'en le faisant, nous obtiendrons un effet négatif, non seulement sur la croissance de la tumeur, mais aussi sur la formation des vaisseaux sanguins à l'intérieur de celle-ci.
Voilà, Greg Semenza, nouveau prix Nobel de médecine, donc, qui a expliqué une partie de ses travaux à l'Institut de France après avoir été récompensé déjà en 2012 avec Kaelin et Radcliffe par la fondation Le Foulon de la Lande. Vous avez compris, une tumeur qui dépend de l'apport en oxygène par le sang, il est possible de l'asphyxier en limitant la production de HIF1. Et puis on tente le mécanisme inverse quand on veut l'effet inverse, une façon d'aider le corps à réguler son apport en oxygène, une façon aussi de se baser sur l'observation des mécanismes naturels du corps humain pour l'aider un peu, pourquoi s'en priver.
Merci Benoît Bouscarel. Quand les anti-PMA tentent de renouer avec l'esprit de la manif pour tous, hier 7 ans après les grandes mobilisations contre le mariage pour tous, les opposants au projet de loi sur la bioéthique étendant la procréation médicalement assistée à toutes les femmes ont défilé à Paris et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Ludovine Delarochère, présidente de la manif pour tous. Bonjour madame.
Bonjour Thomas Cluzel.
Et à mes côtés pour vous interroger, Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors quand le collectif organisateur assure que 600 000 personnes étaient présentes, un cabinet indépendant en a compté 74 500. L'estimation de la préfecture de police de Paris tourne, elle, davantage autour de 42 000. Quoi qu'il en soit, et au-delà de cette bataille de chiffres, ce qui apparaît assez certain, c'est qu'on est loin de la mobilisation de 2013 contre le mariage pour tous. Est-ce que vous êtes déçus ?
Alors écoutez, on annonçait une foule clairsemée, on annonçait peu de monde, etc., etc., ici et là. Le fait est qu'il y avait un monde considérable, une foule incroyable. La foule arrivait de toutes parts, comme on peut l'observer un certain nombre, notamment de chaînes de télévision. Je pense à LCI qui disait « la foule arrive de partout ». Et c'est vrai que ça a été très impressionnant. Alors, c'était une manif d'avertissement, c'était une première manifestation, un lancement. Et si on voulait rentrer dans les comparatifs, moi je penserais plutôt à la première de 2012-2013, qui était une manif qui a rassemblé 200 000 personnes.
600 000 personnes sur un trajet de 2 km entre le Sénat et la place du 18 juin, vous faites comment ?
Alors il y a eu un énorme délestage que nous avons dû faire sur le boulevard Saint-Michel, qui comme vous le savez en tout cas, c'est ainsi, le boulevard Saint-Michel est long, très large, et il y a eu aussi beaucoup d'arrivées par toutes les rues transversales que la police, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, n'avait pas fermées. Il y avait beaucoup de monde en avant du cortège, et tout cela bouge, repart.
600 000 personnes, etc. C'est à peu près l'équivalent de 20 km de boulevard Montparnasse. Hein.
Non, mais...
Le calcul est assez simple,
mais
et là on est loin du compte.
Il faut mettre 4 personnes par mètre carré selon les endroits, c'était extrêmement dense. C'était extrêmement dense au point que les services de secourisme sont intervenus souvent parce qu'il y a eu quelques malaises. Et vous savez, Antoine Marette, les gens arrivent et repartent. Ça n'est pas un rassemblement fixe. Et je peux vous dire que nos méthodes de comptage n'ont pas changé. Nous avions les mêmes polémiques après chaque manif.
Là, c'est de 1 à 14 quand
François
même.
Hollande,
ça a augmenté le
François Hollande,
niveau
non,
de
non,
différence.
Attendez, la préfecture de police qui annonce 40 000, c'est même pas de Parc des Princes. 40 000, il faut pas plaisanter, il faut qu'ils apprennent à compter. Mais J'y reviens. François Hollande lui-même a confirmé plusieurs fois, y compris dans deux livres d'interview, que nous étions bien 1 million de personnes, ce que tout le monde contestait en 2013. Donc voilà,
ça suffit
les chiffres.
Hein. On a vu quelques hommes politiques hier manifester contre la PMA pour toutes. En gros, la galaxie conservatrice et l'extrême droite, on est loin du grand nombre d'élus de droite qui étaient venus lors des précédentes manifestations.
Mais vous savez, ce qui est important dans une manifestation, c'est les Français, les citoyens, tout simplement, qui viennent s'exprimer. J'invite d'ailleurs à regarder toutes les photos sur notre site internet ou sur le compte Twitter de la Manif pour tous, des photos de foule immense, innombrable, et je serais heureuse qu'elle soit davantage relayée dans les médias. Ils représentent des Français, donc c'est formidable, et nous remercions les élus qui sont venus. Mais en même temps, la mobilisation et l'appel à venir, elle s'adressait à tous les citoyens élus, pour l'essentiel non élus. Alors il y a eu effectivement moins d'élus qu'à d'autres manifs. Encore une fois, quoique le contexte soit différent et la comparaison a ses limites, mais vous savez, sur des sujets aussi humain, aussi profond, aussi important, que chaque élu, notamment, est une position personnelle et en conscience, cela me paraît très juste, très sain sur ces sujets. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de parti politique qui soit, si ce n'est La République En Marche, enfermé ou enfermant ses élus dans telle ou telle position, c'est bien. Et d'ailleurs, ce sujet divise de la gauche jusqu'à la droite, en passant par le centre, les positions sont diverses.
Alors, il y avait, c'était assez frappant hier, assez peu de drapeaux de la Manif pour tous. Il y avait le slogan « Liberté, égalité, paternité partout », mais le fameux drapeau rose et bleu, Manif pour tous, était assez peu présent. C'est devenu ringard, la Manif pour tous ?
Non, mais c'est pas ça. Encore une fois, nous sommes dans un contexte différent. C'est un autre quinquennat, entre autres choses. Le contexte est autre. Et donc, cette fois-ci, c'est aussi plus d'une vingtaine d'associations qui se sont unies, rassemblées pour lancer cet événement. Et la Manif pour tous n'était qu'une association parmi d'autres.
Alors, vous appelez à poursuivre la mobilisation. Vous avez d'ores et déjà appelé les manifestants à réserver 4 dates, notamment 1er décembre, 8 mars, 17 mai, des dates qui correspondent aux journées mondiales de lutte contre le sida, contre l'homophobie et à la journée internationale des femmes. Est-ce qu'il faut y voir un message ou c'est un hasard complet ?
Alors, c'est tout à fait le hasard. En fait, ça correspond à ce qu'on peut estimer être le calendrier parlementaire de l'année à venir. Il faut bien savoir qu'Agnès Buzyn s'est donné comme objectif pour que la loi soit votée l'été 2020. Il y a donc de longs mois devant nous. C'est le tout début du processus. Néanmoins, le 8 mars. Alors, en plus, quand on s'occupe de définir des dates, il y a le calendrier parlementaire et puis il y a différentes contraintes. Et par exemple, celle du week-end. En l'occurrence, le 8 mars sera aussi... Mais regardez, vous ferez l'exercice Antoine Marette et vous verrez que c'est vite vu. Mais le 8 mars, qui est aussi au moment des municipales et c'est bien, et la journée internationale des femmes, et sur la GPA, ça a beaucoup de sens, évidemment.
Juste une dernière question. Vous avez manifesté en masse contre le mariage homosexuel et la loi est passée. Très peu d'hommes politiques, y compris ceux qui s'y sont opposés, ne souhaitent désormais revenir en arrière. Alors pourquoi ce serait différent pour la PMA pour toutes?
Alors d'abord, parce que nous arrivons au cœur du sujet, qui est la question de savoir si on peut volontairement, délibérément priver des enfants, en l'occurrence de père, et si l'on peut accepter demain ou après-demain l'exploitation de la femme par la GPA. Et ces enjeux, ces questions, c'est ce qui a toujours été notre préoccupation primordiale et essentielle, et c'était la raison de l'opposition au mariage de deux hommes ou deux femmes, puisque la filiation va avec.
Merci Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Antoine Marette. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Un large soleil en Provence, Alpes, Côte d'Azur, partout ailleurs. En revanche, le ciel sera instable, particulièrement chargé en nuages sur la Bretagne et même orageux en Corse. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.